Chers auditeurs de la RED Radio Évangile Développement, bienvenue à l'édition de votre journal de ce jour consacré à la dédicace de l'ouvrage du pasteur Firmin Tchenerbego, pasteur principal de l'église centrale de la mission apostolique de Ouagadougou, intitulé « Comment rebâtirons-nous ?» À la présentation, Franck Dorian Tapsoba. Dans ce contexte difficile que traverse notre pays en général et l'Église en particulier, le pasteur Jean-Firmin Tchenerbego, pasteur principal de l'Église centrale de la mission apostolique, propose une solution. Comment rebâtirons-nous? C'est l'ouvrage tiré du livre de Néhémie qui propose des stratégies et montre comment rebâtir notre Église en ce moment où le monde traverse des moments difficiles et que l'Église se doit être lumière. Un livre dont le résumé a été présenté par le docteur Jacob Yarabatuala, sociologue, enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou.
Le livre du pasteur Jean-Firmin Tchenerbego, « Comment rebâtirons-nous ?» est une série d'enseignements organisés en 8 sections que je pourrais aussi qualifier de chapitres qui sont premier chapitre, section, un défi et une action. Deuxième chapitre, une évaluation des défis. Troisième chapitre, comment organiser le travail pour relever le défi. Quatrième chapitre ou section, l'opposition face aux défis à relever. Et le cinquième chapitre ou section, le défi d'une vie communautaire juste, le défi de la parole, section 6 ou chapitre 6. Et l'avant-dernière section, la repentance et la vie de sanctification. Et enfin, des serviteurs rétablis. Un avant-propos en guise d'introduction et une section résumée et recommandations en guise de conclusion sont au début et à la fin de l'œuvre. Abordons notre avant-dernier point à propos donc du contenu de l'œuvre. Le chapitre ou section 1, intitulé « Un défi et une action ». Quel genre d'homme es-tu ? Ce chapitre rappelle le défi de Néhémie. L'auteur dit clairement que ce défi était la question de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. On peut se permettre de se poser la question à cette étape. Pour nous aujourd'hui, quel est notre défi? Le même chapitre révèle les attitudes, voire les réactions des acteurs face au défi et vis-à-vis du leader qui le porte. L'auteur indique que face au défi de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, les acteurs ont eu diversement des attitudes qui vont de l'indifférence à l'action concrète en passant par les abus d'impuissance. L'auteur dit à la page 18, si vous avez vos livres, et je le cite, « Les indifférents sont des gens qui ne manifestent aucun intérêt pour quoi que ce soit, pas même pour une situation particulière. » Un indifférent, dit-il, c'est quelqu'un qui n'est pas concerné, c'est quelqu'un qui est insensible, détaché. Les habitants de Jérusalem dormaient, se réveillaient, vaquaient à leur occupation sans se rendre compte de la gravité de la situation. Et c'est comme si quelqu'un était indifférent face à une situation, comme par exemple la situation que nous traversons, tant pis. Pourvu qu'on s'en sort. Et l'auteur de contextualiser cette situation à la page 19, il dit que c'est triste d'avoir de telles personnes dans l'église. Elles viennent, font leur culte de dimanche et disparaissent. La vie et le fonctionnement de l'église ne les préoccupent point. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Que l'église fonctionne bien ou fonctionne mal, pour elles, c'est-à-dire les personnes indifférentes, ce n'est pas grave. Pourvu qu'ils puissent prendre un peu le culte, la sainte scène et le message, et ils disparaissent. Ça, c'est les indifférents. Les impuissants, l'auteur dit que ce sont ceux qui sont conscients des défis à relever. Ils sont préoccupés face à ces défis, mais se trouvent dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Ils savent qu'il y a des choses à redresser, mais ils pensent que c'est perdu d'avance. L'auteur fait remarquer que si une église est pleine d'impuissants, rien n'avance, même s'il relève à la page 21 qu'ils ont un certain avantage, leur forte dose d'émotion et de sympathie. Voilà, ce sont des gens, quand vous avez un problème, ils pleurent tout de suite. Et quand ils pleurent, vous êtes soulagé parce qu'au moins il y a des gens qui pleurent. Et ils sont très émotionnels. Ils disent, aïe, cassé, aïe, on a bien sourire, on a sans fond, aïe, on a joué, on a joué. Alors, ils sont tout de suite prêts à t'aider. Mais ça s'arrête là. Deux jours après, ils disparaissent dans la nature. Enfin, les sommes d'action. Ni bavard, ni émotionnel, il pose des actions concrètes. Néhémie est passé par la phase d'émotion, puis à la phase d'action. La première action face au défi, c'est la prière d'après l'auteur. Et il lit très bien la page 23. Je demande donc à Kéré de lire l'extrait de la page 23.
Dans sa prière, nous découvrons trois choses. Il a d'abord reconnu que le problème n'était pas Dieu, mais Israël. Dieu est constant et fidèle. C'est l'homme qui est inconstant et infidèle. Ensuite, il a demandé pardon à Dieu pour lui-même et pour son peuple. Il a prié Dieu de se souvenir de ses promesses au patriarche. Enfin, il lui a demandé du succès. Nous voyons clairement que Néhémie a mis du temps dans la prière.
Yeah. Merci, on va applaudir très fort. La première action face au défi, donc, c'est la prière d'après l'auteur. Et l'extrait que Karen vient de nous lire est illustratif de la qualité et de la structuration de la prière de Néhémie. Ça, c'est fondamental. Et Jean-Philippe Tiendré-Bogo conclut cette section avec un questionnement et une analyse intéressante à la page 24, juste un extrait. Nous voulons souvent faire l'œuvre de Dieu sans nous entretenir avec lui au préalable. En toute chose, il faut d'abord la prière. Et si on parlait peu, pour beaucoup plus prier, comment allons-nous réussir si nous n'échangeons pas avec celui à qui appartient l'Église? Une Église qui ne prie pas ne peut pas avancer. Il est temps de prier. Nos églises doivent être des églises de prière. Revoyons notre vie de prière. Les groupes de prière et d'intercession dans chaque église doivent continuer et redoubler d'ardeur dans leur ministère de prière. Chaque membre de l'église devrait pouvoir intégrer un groupe de prière. Nous devons prier en famille. Il est conseillé de trouver un partenaire de prière. Le Seigneur a de belles choses pour l'église, mais il nous faut prier. Voilà l'affaire. L'auteur est très catégorique sur la nécessité de la prière. Abordons le chapitre 2, une évaluation des défis. Quelle est l'ampleur des dégâts? C'est l'intitulé du chapitre 2 que vous allez trouver à partir donc, de la page 25. Et ce chapitre est basé sur le chapitre 2, les versets 11 à 18 du livre de Néhémie. Et cette section aborde successivement les points suivants. L'évaluation de la situation, le compte rendu et les résolutions. Je vous propose un extrait assez intéressant à la page 31, où il dit Néhémie a fait le tour de la ville et a constaté l'ampleur des dégâts. Il a surtout remarqué l'état des portes de la ville qui étaient brisées. Comme la ville de Jérusalem, il y a des hommes et des femmes qui ont des portes brisées dans leur vie. Il y a des chrétiens qui ont des portes brisées dans leur vie. Quelles sont, page 32, les portes brisées dans ta vie? Dans la vie de ton église, hein, les portes brisées, hein, il dit quoi? La porte brisée peut être ton don. Peut-être que tu l'as enterré. La porte brisée peut être ton ministère. Le dysfonctionnement dans votre ministère. Donc, et là, il montre que l'évaluation doit être très claire. Et l'extrait à la page 33, vous allez regarder à la page 33, un extrait qui montre clairement la situation globale. Pour le chapitre 3, la section 3 ou chapitre 3, comment organiser le travail pour relever le défi? Un leader, une équipe. Ce chapitre commence à être une réponse concrète à la question de savoir comment nous bâtirons-nous. Avoir une vision, la partager à des hommes capables de déterminer et passer à l'exécution de façon méthodique comme Némi l'a fait. Je vous propose un extrait à la page 37. Regardez la page 37. Hein? La page 37. Oui, il dit, Némi, lui, à lui seul, ne pouvait rien faire. Dieu était avec lui. Il avait la vision et aussi le soutien de quelques hommes fidèles. Mais il le savait tous, Némi et ses hommes, que sans l'engagement de tout le peuple, tout ne serait resté qu'intention. Tout ne serait resté qu'intention. Un seul doigt ne peut ramasser la farine. Nous dit un proverbe, voilà. Némi a discuté avec son peuple et ils se sont dit, levons-nous et partissons. Et l'auteur de continuer, hein, la mobilisation de tout le peuple a fait du rêve de Némi, je veux dire, de sa vision, une réalité. Des idées sans des actions ne feront pas grand-chose. Il y a beaucoup de théoriciens et d'hommes de discours, mais peu d'hommes d'action. Applaudis cet extrait-là. C'est très fort. C'est très fort. Aïe, 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 aïe. Eh oui, c'est une vérité qui fait mal, mais c'est vrai. Donc, ce chapitre est structuré et je voudrais prendre un dernier extrait avec Dimfi à la page 43. Page 43.
La femme et l'époque ont été rebâties en 52 jours. Un travail qui a traîné pendant un siècle a été accompli en moins de 2 mois. Comment expliquer cela? C'est l'engagement. Les gens ont travaillé avec cœur. Némi le dit dans son chapitre 4, verset 6. Et le peuple prit à cœur ce travail. Ils étaient lassés d'être la résiste du monde.
La résiste du monde.
La résiste du monde. La honte du monde.
La honte du monde.
Ils étaient fatigués de vivre dans le pro.
Merci. On va applaudir très fort. Ils étaient lassés d'être la risée du monde, la honte du monde. Et je pense que si on arrive à ce type de conscience, on doit pouvoir dire, levons-nous et partissons. Le chapitre ou section 4, l'opposition face aux défis à relever, le service et le combat. Le chapitre est basé sur Némi 4, versets 1 à 11. Il rappelle successivement l'existence de l'opposition, les tactiques des opposants, l'attitude adoptée face aux opposants et enfin le résultat du combat face à l'opposition. Je vous propose un extrait à la page 47. Page 47. Page 47. Satan s'est opposé à Némi dans la reconstruction de Jérusalem. Je pense que c'est suffisant. Qui s'est opposé? Le cas n'est pas facile. Hein? Donc, l'auteur recense aux pages 50 à 52 les tactiques de l'ennemi. Il peut intimider, se moquer et ridiculiser, décourager, discréditer et enfin assassiner. Voici les tactiques de l'ennemi proposées et rassemblées par l'auteur. Face à ces tactiques destructrices, l'auteur apporte la riposte en préconisant premièrement la prière, deuxièmement le travail et troisièmement la vigilance. Je termine ce chapitre avec cet extrait de la page 56. Dieu anéantira le projet des ennemis. Dites amen.
Amen.
L'ennemi, ce n'est pas mon frère ou ma soeur. Dites amen.
Amen.
C'est Satan et ses agents. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. L'ennemi a échoué et a déjà été vaincu sur la croix. Dites amen très fort.
Amen.
La reconstruction de nos mirages spirituels fait face à une farouche opposition. La construction et ou la reconstruction de nos églises en général et de l'église locale connaît des difficultés causées par le véritable adversaire, l'opposant de Dieu et de l'église. Un ennemi rusé, méchant, permanent et invisible, l'ennemi du peuple de Dieu. Cet ennemi est bien présent dans le projet de l'ennemi. Il s'est manifesté de plusieurs manières sa communauté lui ont résisté. Chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là et vous encourager à lire les sections 7 à 8.
Quelles sont les stratégies expliquées dans l'ouvrage? Réponse à suivre avec le pasteur Firmin.
Comment rebâtirons-nous? C'est une série de messages tirés du livre de Néhémie. Et nous pouvons découvrir donc, dans le livre de Néhémie les stratégies qui ont été mises en place pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Donc ces stratégies sont toujours utiles aujourd'hui. Et nous pensons qu'avec tout ce que nous vivons dans nos églises, dans nos nations, nous avons besoin de reconsidérer les stratégies que nous avons utilisées pour également aujourd'hui relever nos défis. Ce livre s'adresse à l'église de Jésus-Christ, d'abord aux chrétiens et ensuite à tout le monde, puisque au-delà donc de l'aspect spirituel, nous pouvons également tirer les principes. C'est le principe d'un leader de référence, donc nos nations, et voilà, le monde entier, chacun, quel que soit où il se trouve, peut tirer quelque chose de ce livre pour l'appliquer dans sa propre vie, pour avoir des résultats. Néhémie a pris conscience que la situation qui se trouvait à Jérusalem était difficile. Nous avons parlé des indifférents. Il y en a qui vivaient à Jérusalem quand Néhémie n'était pas encore de retour, mais qui n'ont absolument rien fait. Donc, Néhémie a pris conscience de la situation dans laquelle se trouvait Jérusalem. Deuxièmement, il a pris le soin de faire l'évaluation des dégâts. Il ne s'est pas rapidement lancé dans les travaux. Il a vu d'abord quelle est l'ampleur des dégâts et qu'est-ce qu'il faut faire pour relever donc ces défis-là. Donc, après, il a mobilisé le peuple. Comme on l'a dit, une seule main ne peut pas ramasser la farine. Néhémie, face au défi, s'est rendu compte que lui seul, avec les quelques leaders autour de lui, ne peut rien faire. Donc, il a mobilisé tout le peuple comme un seul homme pour reconstruire les murailles en 52 jours. Alors qu'avant lui, il y en a qui, les Esdras et autres, ont essayé et ça traînait pendant 100 ans. Et ils n'ont pas pu le faire. Et Néhémie, avec les stratégies qu'il a mises en place, en 52 jours, il a reconstruit les murailles de Jérusalem.
Le livre a été produit sous le regard aguerri du docteur Yara Boitouala, qui apprécie le contenu.
Je peux dire franchement que c'est un livre qui tombe à point nommé, parce que notre pays traverse des moments difficiles et avoir un livre dont le titre est questionnant, comment rebâtirons-nous, on est tout à fait intéressé de savoir qu'est-ce que l'auteur donc nous apporte comme piste de solution dans la crise morale, la crise politique, la crise sécuritaire, la crise politico-militaire dans notre pays. Et quand on lit ce livre, en tant que peut-être chrétien, en tant qu'église, notre premier rôle d'après l'auteur, c'est la prière. Mais ça ne suffira pas. L'auteur nous invite à faire un bon diagnostic de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos églises? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre société, le Burkina Faso? Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Quand on fait ce diagnostic sans complaisance, alors on passe maintenant à l'action. Faire en sorte que maintenant tout le monde puisse être à sa tâche, à son travail et à son poste pour justement relever le défi. Et c'est ça que le livre donc nous invite à faire. Savoir identifier les problèmes, mais ne pas s'arrêter là, mais passer à l'action. Le livre aussi invite tous ceux qui sont toujours indifférents. Ça veut dire qu'aucun problème ne les intéresse. Pourvu qu'ils mangent le matin, le midi et le soir et qu'ils puissent dormir, non, à la fin, ils seront emportés par les problèmes qui arrivent à tout le monde. Autrement dit, le problème du Burkina nous concerne tous, le problème de l'Église nous concerne tous et il n'y a pas donc de retraite possible pour qui que ce soit. Chacun peut apporter quelque chose. La prière ou l'action, quel que soit le domaine dans lequel on a tous donc un potentiel, un talent à mettre au profit donc de l'Église et de la société. Et pour terminer, nous avons fait des remarques à l'auteur en disant qu'il peut améliorer le travail avec une réorganisation dans la forme et également des éléments donc de fond en introduisant des actions concrètes que lui-même il a pu poser ici dans son église locale, notamment en reconstruisant le temple, en lui donnant un nouveau visage et en donnant gloire à Dieu. Donc tout cela pourrait contribuer à une seconde édition du même ouvrage avec donc une augmentation, avec un nouveau chapitre.
L'ouvrage « Comment rebâtirons-nous » a été d'abord présenté sous forme d'enseignement dans l'église et vu la richesse du contenu a été mis sous forme en papier. Il est écrit en 100 pages avec 8 chapitres. Le livre est disponible au secrétariat du pasteur Jean-Firmin Tienobego et au secrétariat de l'église de la mission apostolique au prix de 3 500. Bien-aimés de Dieu, c'est tout pour le journal de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et Dieu vous bénisse.